Bonjour et bienvenue dans l'émission Ma commune est utile. Donc, je me représente Gérard Queval. Je vais animer cette émission avec à mes côtés Alain Castan, président de l'Association des maires ruraux de la Dordogne, et Brigitte Cabirol, maire de Saint-Barthélemy. Oui, ben, bonjour à tous, bonjour Alain, bonjour Brigitte.
Bonjour, bonjour.
Donc on va commencer cette émission par faire un petit point, parce que tu es arrivé avec le journal des 36 000 communes. Tu peux expliquer qu'est-ce
Exactement.
Que c'est que ce journal pour les maires?
Eh bien, 36 000 communes, c'est le journal national des maires ruraux, puisqu'il paraît tous les mois, c'est un mensuel. Et donc, ce coup-ci, nous avons la joie d'être à l'honneur, puisque toute une page nous est réservée sur les maires ruraux qui ont une émission radio locale, donc Radio Locale Périgord. C'est un très bel article, et c'est vrai que quelque part, j'ai déjà des échos de mes collègues des autres départements. Eh bien, ça y est. On va faire des petits. Beaucoup de radios locales en France sont en train de nous copier. Eh bien, bravo Radio Locale Périgord. Vous avez été les premiers à le faire. Eh bien, ça va suivre.
Les précurseurs.
C'est pas Radio Locale, c'est Radio Libre.
Radio Libre, pardon.
Elle est locale aussi. On est local.
Oui. Non, mais je crois que c'est important de faire connaître cette émission, même au niveau national, pour parler du rôle des élus. Et c'est dans ce cadre-là qu'on va commencer cette émission aujourd'hui, qui va être la dernière de la mandature des
oui.
maires. Et puis bon, la prochaine, ça sera avec des nouveaux maires, même si ce sont les mêmes qui reviendront peut-être.
Ah, mais il faut être réélu.
Hein, donc il faudra qu'on soit réélu. Donc on va parler un petit peu peut-être quelques conseils que vous allez donner aux nouveaux élus.
Mais d'abord, ce que je voudrais dire, Gérard, c'est que c'est inquiétant parce qu'au niveau national, nous avons 106 communes qui n'ont pas de représentants et qui n'ont pas de candidats. Et ça, je l'avais déjà dit, c'est quand même quelque chose de très préoccupant, parce que trois mois après, c'est le préfet qui va prendre la main s'il n'y a pas de liste électorale après le deuxième tour. Et au bout de six mois, s'il n'y a toujours pas de candidat, eh bien la commune sera irrémédiablement fusionnée avec la commune voisine. Alors donc, j'appelle moi tous les citoyens à se mobiliser, à s'engager sur une liste pour pas que leur commune disparaisse du champ de l'Hexagone.
Mmh. Oui, parce que je crois que c'est dans le sens... Bon, il y a des fusions, mais elles peuvent être... décidées par les habitants. Mais là, c'est des décisions...
C'est l'autorité.
C'est l'autorité forcée. Oui. Brigitte, tu peux dire
moi. C'est arrivé déjà à Montpont-Ménestérol, puisque à l'époque, sur Ménestérol et Montignac, à Montpont, il n'y avait pas de conseils municipaux ou de présence de personnes qui voulaient se présenter aux conseils municipaux. Et donc, c'est le maire de Montpont qui a, pas annexé, mais presque, Montignac et Ménestérol, et c'est devenu Montpont-Ménestérol à cause de ça. Donc, voilà, il y a déjà des précédents, donc on sait ce qu'ils sont capables de faire. Mais là, bon, après tout, mais moi, je voulais aussi pointer du doigt le fait que il faut donner aux femmes l'occasion de se présenter. Je veux dire, on n'attend pas non plus qu'après les hommes. On est très peu femmes mères. En 2008, on était 14%. En 2014, on est 2016. En 2014, on était 16% à avoir été élus. C'est peu. Je pense que les femmes ont quelque chose à jouer dans ce rôle-là. Alors bien sûr, il y a beaucoup de... La majorité des femmes élues le sont dans des petites communes où il y a très peu de monde, hein, moins de 1000 habitants. Et il y en a simplement 41 femmes mères qui sont dans des communes de plus de 100 000 habitants. Donc, mesdames, je vous en prie, prenez la place. C'est vrai, il faut se lancer. Des fois, c'est un milieu très misogyne, en plus. Hein. Je veux dire, il faut vraiment jouer des coudes et ne pas se laisser faire pour y arriver. Mais on est en train, nous, les vieilles, de vous faire de la place. Donc, lancez-vous, faites quelque chose.
Il
ne
faut pas dire les vieilles, c'est les anciennes. C'est les anciennes.
Je peux dire, quand ça me concerne, moi, je peux dire vieille. Quand c'est les autres, je dis ancienne. Mais voilà, je pense qu'il faut féminiser tout. On a besoin des femmes. On n'a que 40% des femmes avec la parité, enfin, la loi sur la parité. Il y a 40% des femmes qui sont dans les conseils municipaux. Mais après, au sein des responsabilités, il y a 84% des collectivités locales sont gérées par des hommes. Donc moi, ça m'interroge quand même. Je pense que les femmes sont capables de faire plus et mieux.
Mmh.
On est tout à fait d'accord. Donc, écoutez la voix de Brigitte et puis motivez-vous. Ça sera un réel plaisir. Moi, je sais que je suis élu depuis 2001. Et ce que j'apprécie chez les femmes élues, c'est leur pragmatisme. Les femmes ont beaucoup de pragmatisme. Et c'est vrai que quelque part, quand elles ont des choses à dire, elles le disent avec beaucoup de valeur et beaucoup de consistance, parce qu'elles comprennent certainement la vie aussi bien que les hommes, et je suis tout à fait d'accord qu'aujourd'hui, il n'y a pas assez de femmes dans le monde politique.
Voilà, donc il y a des mairies à prendre, prenez-les.
Donc, on peut toujours dire ça, oui. Dans la continuité de ce débat-là, bon, par rapport aux jeunes élus qu'on va avoir, mais aussi par rapport aux anciens, quels conseils tu peux donner et quel est le rôle que peut jouer l'association des maires ruraux pour aider ces jeunes élus ou ces élus à essayer de bien gérer leur commune?
Alors ça, c'est un vaste sujet. C'est vrai que quelque part, le monde a changé. Et aujourd'hui, la différence avec, je vois pour mon cas, mon arrivée en tant que maire en 2001 est complètement différente aujourd'hui. Et c'est vrai que lorsqu'un jeune arrive, jeune maire, et ça c'est une très bonne chose par contre, parce qu'il vit son temps, on est passé déjà la première chose, il y a beaucoup de dématérialisation. Et c'est vrai que quelque part, le maire doit être en appui de la secrétaire de mairie. Et heureusement que les secrétaires de mairie, j'ai toujours dit que les bonnes secrétaires faisaient des bons maires, mais je pense que là, c'est tout à fait le cas, parce qu'elles ont une formation plus importante sur cette dématérialisation, mais aussi sur les sujets qui touchent la proximité. Mais si j'avais un conseil à donner à un nouveau maire, le premier, c'est de s'appuyer, bien sûr, je pense que dans le conseil municipal, il ne doit pas y avoir que des jeunes, de s'appuyer sur ceux qui sont sortants et qui ont un peu d'expérience. La deuxième, certainement, c'est de vite s'inscrire sur des stages de formation, par exemple sur le budget, parce que c'est difficile quand on arrive pour la première fois de faire un budget si on n'a pas les compétences. Et ils se rendront compte aussi que ces compétences-là, il faut aller les chercher auprès de la sous-préfecture ou la préfecture. Il faut aller la chercher surtout, et je le répète, auprès des associations d'élus. Et donc j'engage les nouveaux maires, bien sûr. Je vais faire un peu de pub pour l'association des maires ruraux. Mais on a besoin de maires. On a énormément progressé dans le département. Mais on aura demain besoin aussi de jeunes pour apporter des idées nouvelles à cette association qui date déjà de l'association des maires ruraux. Mais il y a aussi l'AMF où on est aussi présent. Il faut absolument que ces jeunes se rapprochent de ces deux entités d'élus parce qu'elles leur apporteront la formation et les conseils qu'ils ont besoin.
Brigitte ?
Je rejoins tout à fait ce qu'a dit Alain. Moi, j'insisterai aussi sur le fait que, et là, c'est mon côté féminin qui parle, c'est quand on ne comprend pas quelque chose, on pose des questions. Il y en a beaucoup qui n'osent pas, parce que soit ils sont... ils veulent pas paraître ignorants sur plein de choses. Or, quand on arrive et qu'on est nouveau maire, tu as parlé du budget, mais c'est surtout, on ignore comment fonctionne une collectivité. Enfin, moi, j'arrivais du privé, c'est complètement différent. Et il faut oser poser des questions. C'est ça, je me rappelle, moi, quand je suis arrivée dans certaines réunions, je levais le doigt et je posais des questions. On devait dire, oh là là, la bonne femme, là, elle connaît rien, tout ça. Mais n'empêche que, voilà, c'est comme ça qu'on arrive. Et puis, je posais des questions pour les collègues qui n'osaient pas les poser. Donc, comme ça, ils avaient des réponses en même temps que moi.
Mais aujourd'hui, ça a bien changé, Brigitte.
Exactement. C'est pour ça. Moi aussi, tu dis que tu es élue depuis 2001, moi aussi. Donc, si tu veux, on a pris de la bouteille.
Oui, non, mais c'est important d'apporter ces conseils. Mais je crois aussi qu'il est important, c'est qu'ils n'hésitent pas à se rapprocher des administrations, style le Trésor public, pour les aider à construire un budget.
Tant qu'il y en aura.
Tant qu'il y en aura,
c'est ça, pas... j'allais le dire. Parce que
il nous tend la perche.
Il nous tend la perche, oui, d'autant plus que les services publics disparaissent les uns après les autres. Alors, bien sûr, l'État, quels que soient les gouvernements, nous ont mis des maisons de services publics. Alors, c'est vrai que c'est un pansement, je dis, sur le mal. Mais souvent, le mal, il a du mal à être éradiqué.
Oui, sauf qu'en même temps, on parle de mobilité. Si tu mets une maison France Service qui est à 40 km, elle n'est pas tellement intéressante. Les mairies, quand même, le premier lieu de maison de service public.
C'est ce que j'apprécie chez toi, parce que ça, c'était une bonne observation que tu avais déjà faite. Le premier service public qui existe dans la ruralité, c'est la mairie.
Exact.
Non, mais qu'il faut rappeler, puis qu'il faut se battre pour qu'elle reste. Oui. et surtout dans les 106 communes qui n'auront pas
mais
de.
Je pense que l'association, la MRF et la MR 24, on se bat pour ça. Et je pense que sur beaucoup de sujets, alors on va y venir peut-être un petit peu parce que les élections vont passer. Qu'est-ce qui va se passer derrière ? Il va y avoir beaucoup de mouvements. Nous allons avoir notre Assemblée générale à Lyon au mois de juin. Et je pense qu'on va revenir sur l'agenda rural, on va revenir sur la loi engagement et proximité, on va revenir sur une nouvelle loi qui est en train de se mettre en place, c'est la loi 3D. 3D, ça veut dire différenciation, décentralisation et diversification.
Ils aiment les titres ronflants.
Oui, mais les 3D, ça fait moderne. Mais pour y mettre que du vieux, c'est dedans, à l'intérieur, c'est ça qui n'est pas très bien. Donc, on en reparlera à la rentrée, Gérard, parce que ça va être, il va falloir être vigilant sur ce qu'il va y avoir. Mais on doit dire qu'il y a eu le premier comité interministériel aux ruralités. Suite aux engagements qui avaient été pris dans l'agenda rural, on en avait beaucoup parlé à une époque. Aujourd'hui, on en parlait moins, mais c'est en train de revenir à la surface parce que le gouvernement, quand même, s'est rendu compte que nous avons, nous, la nécessité d'avoir davantage et plus rapidement du concret sur cet agenda rural. Et y a une chose que je voudrais dire parce que c'est important. Les premières propositions européennes, et ça c'est important aussi parce qu'on est en Europe, du Parlement rural commence à s'affiner. Et c'est vrai que l'Association des maires ruraux de France a donné déjà des pistes de recommandations pour répondre aux besoins des territoires ruraux. Et donc, sur plusieurs sujets, par exemple, dédier une enveloppe de fonds de l'Union européenne au développement rural, ça me paraît primordial. Aujourd'hui, les fonds européens vont beaucoup sur les projets des métropoles, vont aussi sur les villes moyennes, mais on ne voit pas beaucoup de fonds arriver sur le développement rural. Et ça, il va falloir qu'il y ait une enveloppe là-dessus. La deuxième, c'est de voir arriver un guichet unique pour encourager ces démarches-là et créer un observatoire européen de la ruralité. Ça, ce serait quand même une bonne chose parce que la ruralité, elle est majoritaire non seulement en France, mais dans tous les pays de l'Europe.
Ouais, on aimerait bien d'ailleurs qu'en France, ils fassent la même chose d'abord. Avant de créer un observatoire européen, j'aimerais bien qu'ils en créent un observatoire français, la ruralité.
Entièrement d'accord.
Parce qu'on veut bien s'élargir à l'Europe, c'est un fait. Je veux dire, on est nombreux à être dans la ruralité, sauf qu'en France, on n'a pas tellement amorcé ce changement-là. Ça manque.
Ça manque. Et une chose super importante aussi, c'est au niveau des procédures administratives. Il va falloir, aussi bien l'Europe que la France, particulièrement la France, revenir un petit peu sur toutes les contraintes administratives que l'on a. Et on vient de s'en rendre compte pour cette élection municipale où il a fallu aller dans les sous-préfectures. C'est la première fois que je voyais ça, moi, pour montrer patte blanche. Il a fallu donner pratiquement un CV d'emploi à tous nos conseillers municipaux. Il a fallu donner des choses incroyables, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est la croix et la guerre pour être candidat à une élection communale.
On va faire la petite pause.
Allez.
Et puis on va redémarrer sur cette question-là.
On a dit déjà beaucoup de choses, c'est déjà bien.
Devant le portail vert de son école primaire, on le reconnaît tout de suite. Toujours la même dégaine avec son pull en laine, on sait qu'il est instite. Il pleure la fermeture à la rentrée future de ses deux dernières classes. Il paraît que le motif c'est le manque d'effectifs, mais on sait bien ce qui se passe. On est les oubliés, la campagne, les paumés, les trop loin de Paris, le cadet de leurs soucis. À vouloir regrouper les cantons d'à côté en 30 élèves par salle. Cette même philosophie qui transforme le pays en un centre commercial. Ça leur a pas suffi qu'on ait plus d'épicerie, que les médecins se fassent la malle. Y'a plus personne en ville, y'a que les banques qui brillent dans la rue principale. On est les oubliés, la campagne, les paumés, les trop loin de Paris, le cadet de leurs soucis. Qu'il est triste le patelin avec tous ses ronds-points qui font tourner les têtes. Qu'il est triste le préau sans les cris des marmots, les ballons dans les fenêtres. Même la petite boulangère se demande ce qu'elle va faire de ses bons becs qui collent. Même la voisine d'en face, elle a peur, ça l'angoisse, ce silence dans l'école. On est les oubliés, la campagne, les paumés, les trop loin de Paris, le cadet de leurs soucis. Quand dans les plus hautes sphères, couloirs du ministère, les élèves sont des chiffres. Il y a des gens sur le terrain, de la craie plein les mains, qu'on prend pour des sous-fifres. Ceux qui ferment les écoles, les cravates et du col, sont bien souvent de ceux qui ne verront jamais, ni de loin ni de près, un enfant dans les yeux. On est les oubliés, la campagne, les paumés, les trop loin de Paris, le cadet de leurs soucis. On est troisième couteau, dernière part du gâteau, la campagne, les paumés, on est les oubliés. Devant le portail vert de son école primaire, il y a l'instit du village. Toute sa vie des gamins, leur construire un lendemain, il doit tourner la page. On est les oubliés.
Bon, on va repartir sur les contraintes administratives. Ouais. Je crois qu'on a une belle image aujourd'hui des contraintes administratives avec le coronavirus et toutes les contraintes qui sont imposées par l'État aux mairies pour ces élections. Tu peux dire...
Là, on est noyé de papier. Alors justement,
et d'affiches.
Et d'affiches et puis de mails, parce que c'est surtout des mails. Mais ils envoient aussi par papier parce que ça les inquiète. Et c'est vrai que quelque part, ce virus est intervenu aussi pour les élections. Il va intervenir pour les élections, puisque les premières consignes, c'est que toute personne qui va rentrer dans le bureau de vote devra se laver les mains, à minima, ou peut se passer avec un gel. Alors bien sûr, nous avons demandé qui fournit le gel. Alors l'État s'était engagé à fournir du gel et puis des masques. Aujourd'hui, on est jeudi. On n'a toujours rien. Il y a des ruptures de stock partout. Alors je viens d'apprendre, il y a à peine une heure, que les masques, c'est fini. On n'en aura plus parce que... On n'en aura pas. Tu as tout à fait raison. Mais parce qu'il y a des ruptures de stock partout. Et puis le gel devrait arriver en sous-préfecture. Ils nous donneront la date pour aller le chercher en espérant que ça ne fasse pas comme, que ça fasse pas comme les masques. Mais moi, j'ai prévu quand même, parce qu'il ne faut pas plaisanter avec la santé... On a prévu, je le disais, je suis un peu hors la loi, mais un peu dans la loi, c'est-à-dire que la loi oblige aujourd'hui à avoir son bureau de vote, donc moi je l'avais à la mairie. Et comme dans les consignes ils disent qu'il faut que les gens qui viennent voter soient plus d'un mètre les uns des autres, qu'ils nous demandent même de mettre des marquages au sol pour justement éviter qu'il y ait trop de rapprochements. Ils nous demandent donc de se laver les mains, ils nous demandent beaucoup de choses et de pénétrer dans le lieu de vote à plus de 5 personnes. Donc moi j'ai pris la décision avec mon conseil municipal, nous allons faire cette élection dans la salle des fêtes parce qu'il y a beaucoup plus de place, il y a beaucoup plus de volume, de façon que les gens puissent se séparer, voilà.
Pour ta part, Brigitte ?
Moi non, je vais continuer à le faire à la mairie. C'est vrai que c'est un peu petit, mais on fera le marquage au sol, comme ils ont dit, préconisé. Et puis ma foi, je me suis rapprochée de la pharmacie parce que le gel hydroalcoolique, on devait en avoir, mais on ne sait pas s'il va arriver. Donc sur Sud-Ouest, pour ne pas le nommer, on nous disait que les pharmaciens pouvaient le fabriquer. Donc je suis allée voir ma pharmacienne. Et je lui ai demandé, elle m'a dit, mais Mme Cavirol, je veux bien vous donner du gel, sauf que j'ai pas de contenant et j'ai rien pour le fabriquer. Bon, puis hier, elle m'a téléphoné en me disant, écoutez, j'ai trois petits flacons de 100 millilitres. Et puis elle a rappelé ensuite en me disant, bon, finalement, alors elle a trois flacons qu'elle a fabriqués et elle a un flacon de 500 qu'elle me donnera.
Heureusement que tu n'es pas maire d'une métropole.
Exactement, alors c'est ce que je leur ai dit. J'ai dit, bon, ben, ça va, je suis ma petite commune, je me débrouille, je vais chercher du gel, mais celui qui est à Bordeaux, à Brive ou ailleurs, bon, bonjour les inquiétudes quand même. Hein, voilà. Bon. On va bien voir. Je pense qu'on est quand même assez raisonnable. On n'a quand même pas non plus une grosse infestation pour l'instant. Enfin, je veux dire, on est quand même encore assez protégé dans la région. Je fais toujours le corollaire avec la grippe normale, hein, qui tue plusieurs milliers de personnes par an. Donc, je me dis que, bon, même si c'est très, très contagieux, peut-être, voilà, c'est certainement moins dangereux au final, je le pense. Après, les informations qu'on reçoit, je fais comme tout un chacun. Vous demander l'avis à quelqu'un, d'une personne à l'autre, c'est tout à fait différent. Donc, en tous les cas, je suivrai scrupuleusement ce qu'on m'a dit de faire. Parce que, d'abord, un maire respecte la loi et respecte voilà, ce qu'on lui donne à faire. C'est normal. Par contre, j'espère inciter les gens à venir voter quand même. Parce que c'est l'essentiel. C'est là que... voilà. Donc, il y aura du gel. Il y aura... Moi, je vais désinfecter mes stylos parce que j'ai acheté une petite fiole d'alcool à 70 avec des petits carrés de coton. Et puis, je vais désinfecter...
Les consignes demandent aussi à nos électeurs d'amener leur propre
oui,
stylo.
Alors les consignes, c'est ça. Puis après, la préfecture est embête parce que ta liste électorale, il faut que tu la signes en noir. Et puis le code d'après en bleu.
Ça va égayer la liste. Donc, il y aura du vert, il y aura du rouge, il y aura du bleu,
du rouge,
il y aura du noir.
C'est pour les procurations. Donc tu vois, je veux dire, voilà, bon, et puis un stylo, ben, tu achètes un stylo lisse, un tampon d'alcool, et ben, tu te désinfectes à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui attrape le stylo.
Mais la véritable question que je me pose, moi, c'est pourquoi ils n'ont pas repoussé cette élection que c'est vrai que quelque part. Si cette épidémie s'amplifie, je pense que les maires sortants étaient à même de bien mener certaines étapes, au moins pour essayer de que ça ne s'amplifie pas très rapidement, alors que des jeunes maires vont arriver, ne connaissent rien du tout.
Tu parlais de procédures administratives, c'en est une, puisque pour décaler des élections, il faut que tu fasses une loi. Hein, quand Sarkozy nous avait fait un an de plus dans le mandat de 2001-2007, on avait fait 7 ans, il avait prévu un an avant. Donc la loi passe à l'Assemblée nationale, passe au Sénat, repasse à l'Assemblée. Là, maintenant, tu veux repousser pour dimanche. Ça va être juste travailler l'Assemblée nationale, le Sénat.
Voilà. De toute façon, quand on voit ce qu'ils ont fait, nos sénateurs et nos députés, ce qu'ils ont fait de notre belle loi engagement et proximité qui devait défendre la ruralité, comme je l'ai déjà dit dans les médias, ils nous ont saboté cette loi et il en est sorti pratiquement... pas grand-chose par rapport à ce que nous, les maires ruraux, nous avions proposé au Premier ministre.
Oui, tout à fait. C'est pour ça que maintenant, ils se lancent sur la fameuse loi 3D dont tu parlais tout à l'heure.
Exactement.
Je vais revenir un petit peu sur l'abstention parce que c'est vrai que ça peut amener de...
C'est inquiétant. C'est inquiétant. Il y en a 37% qui ont dit qu'ils n'iraient pas voter à cause du virus.
Hein, donc, il faut inciter les gens à venir parce que...
Mais pas dans nos campagnes.
La commune, c'est important et qu'il ne faut pas qu'ils aient peur de...
Après, je pense que dans certains bureaux de vote, il y a la promiscuité quand tu es très nombreux. Ça, je comprends qu'on puisse avoir...
Et dans les grandes villes, oui.
Dans les grandes villes, une certaine crainte. Auquel cas, pense que...
On ne fait plus rien parce que dans le bureau de vote, bon, c'est un maximum 30 personnes.
Mais enfin, bon, t'as raison, Gérard.
On n'est pas encore arrivé aux 1000, quoi.
Chers amis concitoyens, n'oubliez pas d'aller voter. C'est la démocratie, c'est la première... On s'est battu, nos parents et nos arrière-grands-parents se sont battus pour avoir cette liberté.
Ouais.
Il faut le faire, il faut
et
aller
les femmes
voter.
Beaucoup plus tard que les hommes.
En plus.
Donc
en
alors
plus.
Les femmes, allez-y.
C'est vrai que Brigitte nous le rappelle à chaque fois.
Et puis c'est surtout conforter les élus dans leur rôle, quoi. Parce que s'il y a cette abstention, on peut avoir des sacrés problèmes derrière.
Tout à fait. Mais bon, heureusement, l'élection municipale est celle qui rallie le plus de suffrages. Et c'est chaque fois celle qui a le plus d'électeurs.
Et on attend les votants précautionneusement.
Voilà.
Même s'il n'y a qu'une seule liste, il faut aller voter.
C'est exact.
Donc on va continuer un petit peu. On avait parlé tout à l'heure. Bon, quelle suite sur l'agenda rural ?
Alors, j'en ai parlé tout à l'heure. brièvement par rapport à ce qui se passe au niveau de l'Europe. J'avais pas tout à fait fini sur les préconisations, enfin sur les recommandations de la MRF. J'y reviendrai plus tard. On reviendra beaucoup sur ça parce que il va y avoir la loi 3D. Qui va être...
Alors, tu peux préciser la loi 3D.
Alors, je l'ai dit tout à l'heure, diversification, décentralisation et...
Décentralisation.
Décentralisation. Donc,
on s'y perd.
Moi, ce que je peux dire, c'est que ça a commencé par des réunions avec la ministre qui a été dans chaque région. J'ai participé à celle qui était à Agen. Il y en avait eu une à Agen. Et j'ai rappelé, moi, en tant que maire... Ce que j'avais déjà dit sur la loi engagement et proximité, il faut absolument revoir la gouvernance des EPCI, des établissements publics de coopération intercommunale, c'est-à-dire les communautés de communes et les communautés d'agglomération. On ne peut pas imposer dans la loi engagement et proximité, qui est une conférence des maires où on se retrouve, moi en ce qui me concerne, sur la communauté d'agglo de Vergerac avec 38 maires, et d'avoir chacun, ou globalement, un avis, et se retrouver, et ce n'est que consultatif, et se retrouver en conseil communautaire avec 30 délégués de la ville-centre, contre 43 des 37 autres communes, avec une obligation de vote, et certainement qu'il faut revoir ça. La ville-centre a trop de pouvoir, et moi je le dis, et je me bats sur ça depuis très longtemps, il faut interdire aux maires d'une ville-centre d'être président d'une communauté de communes ou d'une communauté d'agglo. Ça, c'est ce qui permettra d'avoir une vraie démocratie. Alors, bien sûr que la ville-centre a toute sa place. Elle a mais elle n'a que sa place. Oui. C'est un peu ce que j'explique. Et il faut que les projets, ils ne soient pas tout le temps dans la ville-centre, mais il faut les répartir. Alors, bien sûr, les projets, les gros projets structurants, c'est normal qu'ils soient autour de la ville-centre. Mais il y a plein de projets qui peuvent être décentralisés, tels que les crèches, les centres de loisirs, les commerces. Il y a tout un tas de choses, certains bureaux. Ça peut être décentralisé, surtout qu'on va arriver maintenant avec le télétravail et la télémédecine. Donc ça, il faut prendre en compte ça, parce que les gens ont plus envie de travailler à la campagne que de travailler dans un centre-ville.
Ouais, je suis d'accord.
Et toi,
tu as les
mêmes problèmes dans ta communauté qui est beaucoup plus petite que celle de...
Ma communauté est beaucoup plus petite, mais disons qu'on a une ville-centre qui fait 6000 habitants et les autres, on est 500 ou 1000. Donc, je trouve pareil. La ville-centre a 13 délégués sur 28. Donc, cherchez l'erreur. Quoi. À la fin, il suffit qu'à s'allier avec une commune et c'est bon. Moi, nous, notre petite commune, on a un représentant. Puis avec les élections, là, il faut comment dans les scrutins avec liste unique, c'est-à-dire plus de 1000 habitants, tu flèches le candidat qui sera à la communauté de communes. Donc il a fallu prévoir au mois d'août le nombre de délégués qu'il y aurait. C'est-à-dire que là, on a prévu au mois d'août le nombre de délégués qui seront élus après ces élections municipales. Donc nous, on était deux. On avait négocié ça avec notre ancienne communauté de communes, c'est-à-dire les petits villages avaient deux représentants, parce que d'avoir un dialogue tout seul, c'est difficile. Quand on est deux, c'est mieux. Et finalement, on arrivait à avoir deux. Bon, il a fallu revenir à un. C'est-à-dire, on a un délégué. Il faut tout refaire. On arrive avec une nouvelle communauté, c'est tout refaire. Et que le président soit aussi le maire de la ville-centre, ben, il y a un mélange des actions, je serais tentée de dire. Parce qu'il a tout sur place et c'est pas normal. Et en plus, il a la majorité dans tous les cas. Donc, c'est illogique.
Voilà. Mais la répartition, déjà. Moi, je vais donner qu'un exemple. 15 ans de communauté d'agglo avec un président maire de la ville-centre, sur 15 ans, on prend le pouvoir, les maires ruraux épargnent net 600 000 euros. On travaille pendant 3 ans, aujourd'hui épargne net 6 millions d'euros. Ça, c'est un exemple. Parce que plus vous avez de l'épargne, plus l'épargne nette est importante, plus vous pouvez investir.
Bien sûr, voilà. Parce qu'on ne prête qu'aux riches.
On ne prête qu'aux riches. Donc ça, c'est un exemple. Et il faut continuer comme ça. Et c'est vrai que les maires ruraux sont plus dans le tempo des budgets. Souvent les budgets, quand le président est de la ville-centre, il y a toujours de l'exagération.
De toute façon, il y a, comment on pourrait dire, on confond On confond la ville-centre et la communauté. On s'approprie des biens qui sont communautaires,
exactement,
des biens municipaux. Et on en voit bien les campagnes électorales. Hein. Vous avez qu'à ouvrir tous les prospectus des villes-centres et vous verrez qu'il y a des biens communautaires dedans.
Il y a deux choses, moi, que je voudrais dire aux maires ruraux. Accaparez-vous la communauté de communes. Elle est à vous. Elle est à vous. Et si vous avez le pouvoir, vous avez 60% d'élus qui viennent du monde rural pour 40% de la ville-centre. Accaparez-vous le pouvoir. Comme ça, vous pourrez faire beaucoup de choses. Et c'est super important.
C'est vrai.
Bon, Alain et Brigitte, je vous remercie. Je vous souhaite bon courage pour ces élections et pour la suite, quand on se voit le mois prochain. Et j'appelle...
Si tu ne nous vois pas, Gérard, c'est qu'on est rentré à la maison et que nos électeurs n'ont plus voulu de nous.
Voilà, c'est ça.
Et donc, j'appelle les auditeurs à aller voter massivement pour ces élections municipales.
Place
merci
à la démocratie.
Voilà, au mois prochain. À bientôt, au mois prochain.
Au revoir. Au revoir.